Depuis 50 ans, l'Observatoire Pélagis, localisé à La Rochelle, agit pour la conservation de la mégafaune marine. Ils collectent des informations, suivent des espèces et interviennent sur le terrain pour les protéger. Concernant les phoques gris et veaux marins présents dans le Pas-de-Calais, ils orchestrent des opérations d'échouage. Si un phoque est victime d'une attaque, souffre d'une maladie ou n'est tout simplement pas en état de rejoindre la mer, des volontaires le récupèrent et s'assurent de sa sécurité avant de le remettre dans son élément naturel. Créé en 1972, le réseau national d'échouage est coordonné par l'Observatoire Pélagis sous la tutelle du ministère de l'Environnement.
Dans les Hauts-de-France, c'est le centre mammologique du nord de la France qui constitue l'antenne locale de ce réseau national d'échouage. Il sillonne les plages et s'assure de la sécurité des phoques, tout en sensibilisant petits et grands à la présence de cet animal sur nos côtes.
On a un super lever de soleil, une baie qui est découverte, des oiseaux qui sont tranquilles et qui volent et qui se nourrissent, et on a surtout une bonne cinquantaine de phoques posés tranquillement sur la plage.
Bon, on va aller les voir.
Nous sommes à Berck-sur-Mer, il est 7h.
Là, actuellement, sur la baie d'Auty, il y a combien de phoques?
Alors, en ce moment, il y en a un petit peu moins parce qu'on est l'hiver, donc les phoques gris, pour une grande partie, sont remontés sur les côtes anglaises et écossaises pour mettre bas pour les femelles. Donc, logiquement, on devrait être entre une trentaine, une cinquantaine de phoques gris. Et pour les veaux marins, donc la deuxième race, parce qu'il y a deux races qui viennent ici, on est sur à peu près entre 50 et 80 phoques veaux marins, avec des naissances qui ont lieu au mois de juillet. Bon, là, on a une grosse trentaine de veaux marins.
Et de manière générale, sur toute l'année, on va dire que ça tourne à combien d'individus?
L'été, il y en a forcément un petit peu plus. On est à peu près à une centaine de veaux marins et on est à peu près entre 50 et 80 phoques gris, avec des pointes de temps en temps qui montent à 100, un petit peu plus de 100, mais c'est souvent lié à des effets météorologiques sur les côtes britanniques. Les phoques descendent, se mettent à l'abri sur les côtes françaises. Mais voilà, on est sur ces chiffres-là.
Et vite fait, si on pourrait expliquer la différence entre un veau marin et un phoque gris?
Alors, quand on regarde le veau marin, il fait 1m40, 1m60 et il fait à peu près 60 à 80 kg. Mais il faut surtout regarder la tête. La tête, elle ressemble un peu de profil à un chien et le labrador. Et pour le phoque gris, on est sur des individus qui font 1m80, 2m. Qui ont une morphologie un petit peu de profil comme un cheval. Donc sur cette zone en baie d'Auty, ils sont souvent ensemble mais pas mélangés. C'est-à-dire qu'en science on appelle ça des espèces philopatriques, c'est-à-dire qu'ils utilisent le même espace. On se partage les proies mais par contre on se mélange pas.
Moi je m'appelle Jackie Karpouzopoulos, je suis le président de la coordination mammalogique du nord de la France, donc une association loi 1901 qui s'occupe de deux animaux emblématiques, les chauves-souris et les mammifères marins. Donc nous, on suit les mammifères marins et on a la chance sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais d'avoir une population de phoques, donc veaux marins et phoques gris. Et depuis 3-4 ans, malheureusement, on a des échouages qui nous inquiètent.
C'est-à-dire?
Donc pour les phoques, ils sont en augmentation pour les veaux marins depuis une grosse vingtaine d'années et la population a tendance à se stabiliser maintenant. Par contre, le phoque gris, lui, il continue d'augmenter en moyenne de 30%. C'est des apports de population d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande pour quelques-uns. Donc voilà, c'est une population, si on les laisse tranquilles et qu'on fait juste de la surveillance, ça va se stabiliser aussi. Il n'y a pas de raison, mais c'est vraiment magnifique et puis c'est de la biologie pure. Donc ce qu'on fait, on les surveille, comme je viens de le dire, on note plein de choses. On fait de l'intervention quand ils s'échouent. Donc on les amène à la LPA de Calais pour une réhabilitation et une remise dans le milieu naturel. On fait de la sensibilisation tout public avec évidemment une grosse partie sur les enfants. Et malheureusement, quand ils s'échouent morts, on fait des autopsies pour savoir leur état sanitaire, mais également l'état sanitaire des populations.
dès qu'on fait de l'autopsie, dès qu'on fait de la nécropsie, on voit une évolution dans le mauvais sens. C'est que ils sont de moins en moins costauds pour résister au climat qui sont les nôtres. Le manque de nourriture, il est vraiment là. Et ce que j'ai l'habitude de dire en animation, c'est ce qui arrive pour le phoque en ce moment, c'est-à-dire un manque de poissons, ça arrivera à l'homme. Et on a eu des phoques flingués.
En 2018, il y a eu pas mal de tueries notamment.
Il y a eu des tirs sur des phoques. Alors il y en a un avéré, puisqu'on a fait l'autopsie et j'étais présent. Donc la radio, c'est une cinquantaine de plombs dans la tête. Donc là, c'était sur Waplage, tout au nord. Mais sur le Touquet, on a eu deux individus qui sont passés malheureusement à trépas à cause de l'homme. Bon, il y a eu plein de contrix, il y a eu une enquête de gendarmerie qui a été très bien faite. On est remonté très très loin, mais faute de preuves, on ne peut pas accuser des gens. Mais les choses sont là, quoi, et ça fait bouger les lignes. Et depuis ce temps-là, on a nettement moins d'ennuis, quoi.
De la baie d'Authie à la baie de Canche, les phoques peuplent le territoire. En été, ils sont 900 veaux marins et 500 phoques gris. Depuis leur retour dans la mer du Nord, ils reprennent leurs droits et sont observables depuis les plages. Mais leur présence n'est pas sans repos. Lorsque l'un est en danger, le réseau national d'échouage se mobilise. Le centre mammologique du nord de la France l'emmène à la LPA, qui l'accueille et s'en occupe.
Donc pour faire un petit peu du coup une présentation rapide de la LPA, donc au départ on est un refuge fourrière pour animaux de compagnie, avec une fourrière intercommunale. Et depuis 2011, on a un centre de soins pour la faune sauvage annexé au refuge et à la fourrière. Le centre de soins au départ en 2011, il a été conçu pour surtout tout ce qui était oiseaux marins, parce qu'on avait énormément d'oiseaux mazoutés à gérer à ce moment-là. Et un ou deux phoques par an, voire un tous les deux ans, parce qu'on en avait une fois de temps en temps, mais qu'à chaque fois que ça arrivait, ce qui était vraiment anecdotique quand même, c'était quand même c'était un, voire deux max par an, on était obligé de les envoyer jusque Pitervuren en Hollande ou au Chêne en Normandie. Et en fait, très très vite, on s'est aperçu que une seule quarantaine, c'était pas suffisant. Donc, on a réaménagé complètement une volière en zone de quarantaine pour les phoques. Et en fait, la tendance est inversée.
Ça fait depuis quand que la LPA, elle intervient auprès de phoques ?
Oh moi, ça fait plus de 30 ans que je suis bénévole ici. Et ça fait plus de 30 ans qu'ils accueillent des mammifères marins. Ouais, je crois que les fondateurs d'ici, les frères Charpentier, je crois que quand on s'occupe des chiens, des chats, un phoque, c'est un plus. Je crois que ça a toujours existé et ça existera toujours.
Tu dirais que en 2022, vous avez accueilli combien de phoques au centre ?
Une soixantaine l'année dernière.
À la LPA, il y a combien de soigneurs actuellement ?
Au centre de soins, il y a une personne... Didier, ça fait deux. Et après, on a vu Johan qui va aller en récupérer un, plus d'autres qui viennent nourrir. Il y a vraiment deux personnes attitrées au phoque qui connaissent très bien ce qu'il en est, dont Christelle probablement dans pas longtemps qui va avoir son certificat de capacité.
Et si tu devais décrire ton travail avec les phoques, des tâches que tu fais régulièrement ou des choses que tu as apprises à faire pour les phoques, ça serait quoi ?
Alors, des choses que j'ai apprises à faire pour les phoques, il y en a plein, mais en règle générale, et ce que les gens ne voient pas toujours, c'est que, en fait, travailler avec des animaux en général, y compris les phoques, les tâches principales, c'est du nettoyage, en fait. Ce qui est inhérent aux phoques, c'est la réhydratation de base et nourrir les bébés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les biberonner. Même les tout petits, les nouveau-nés, on ne peut pas leur donner de biberon. Ça ne marche pas. Et donc on est obligé de les intuber en fait. C'est vraiment que pour les phoques, donc on est obligé de leur insérer un tuyau jusque l'estomac et puis de verser la bouillie dedans. Donc c'est vraiment du gavage. C'est une phase qui dure le moins longtemps possible. En général, on fait ça au moins la première journée. Chez les tout petits, ça peut durer jusqu'à quelques jours, mais pas plus. Après, on passe très vite au force feeding. Et ça aussi, c'est une autre technique qui est vraiment que pour les phoques. C'est les forcer à manger du poisson, mais avec une technique particulière qui s'appelle le force feeding.
Un jeune phoque, Gaspard, bénéficie de ses soins.
Et là, ici, est-ce qu'il est dans l'eau ? Parce que sinon, vous allez lui faire croquer les pieds.
Il est dans l'eau.
Nous avons Gaspard. Alors, Gaspard, il a quand même une... petite histoire particulière. Donc Gaspard, si s'il veut bien se montrer, et si vous, voilà, vous allez remarquer tout de suite pourquoi il est là. Il a un, on peut qualifier de gros bobo autour du cou, et en fait Gaspard, il s'est pris il s'est pris la tête dans du crin de pêche, et ce crin de pêche l'a cisaillé. Petit à petit.
Lui, vous l'avez récupéré dans le cadre d'une mission d'échouage ?
Il a été trouvé sur la baie de Somme et il a fallu... il y a eu tout un réseau qui s'est mis en place pour pouvoir nous l'amener puisqu'on ne peut pas se déplacer jusque là-bas. Et donc, on nous l'a amené afin de pouvoir le soigner. Mais il a une histoire un peu particulière parce qu'en fait, Gaspard, eh ben, c'est un phoque qu'on connaissait déjà et qui a déjà fait un séjour chez nous. En mars 2022. C'est pour ça qu'on sait exactement qu'il a un an, puisqu'en fait, en mars 2022, il est arrivé chez nous en jeune phoque échoué, juste sevré, en fait. Et il avait fait un passage éclair, puisqu'il il était resté que 15 jours, le temps de le déparasiter. Et en fait, donc nous, on l'avait bagué. Mais en fait, là on va pas le voir, mais il a pas une bague de chez nous, il a une bague, quand il est rentré, on s'est aperçu qu'il avait une bague anglaise.
Et lui, c'est un phoque qu'on a relâché, on l'a relâché l'année dernière, il y a un an. Et, au mois de mai, il est allé jusqu'en Angleterre, à Ramsgate, il s'est fait attaquer par des chiens, donc le centre de soins à côté de Ramsgate l'a pris en charge. Ils l'ont relâché au mois d'août, ils ont changé la bague parce que... Au niveau de la bague française, c'était infecté. Et puis, nous, on l'a récupéré il y a 3 semaines, le 26 janvier, en baie de Somme.
C'est un animal qui est déjà passé par un centre de soins, donc il avait été bagué. Donc la LPA ne va pas rebaguer derrière. Didier, qui s'en occupe et qui est soigneur à la LPA, lui, il a des contacts à peu près dans tous les centres européens de soins. Donc il a pris le numéro de la bague, il a communiqué... avec le centre de soins, donc il a la fiche signalétique du phoque, et en même temps, lui, il peut informer le centre de soins que leur animal qui avait été relâché à tel endroit, il avait été repris avec malheureusement le filet de pêche qu'il avait autour du cou.
Et ça se passe comment une fois que vous récupérez un phoque? C'est quoi que vous mettez en place?
Bon, disons que quand il rentre déjà, la première chose qu'on fait, c'est on le vermifuge pour les parasites. Hein, et puis ensuite, on fait comme Gaspard, lui on fait les soins. Ensuite, il y a une cure antibiotique.
Gaspard, il va bientôt être relâché ?
Là, demain, il part à l'extérieur. Et puis d'ici une quinzaine de jours, il va partir.
Malgré ça, il y a encore des chances pour lui de se réinsérer, malgré 3 séjours ?
Ah, bien sûr. De toute façon, je veux dire, là, on le voit, là, il se dit, mais ils vont me lancer du poisson, là, ils sont là. Mais on ne l'approche pas. Les premiers jours, il était un peu faible, donc on a pu faire des soins locaux vraiment approfondis pendant une semaine. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc on arrive avec d'un côté un poisson, de l'autre côté une seringue à lui. Mais c'est assez compliqué. Tant qu'on peut faire ça, on le fera. Mais maintenant, après la guérison, la cicatrisation, elle est bien entamée. Et la faune sauvage a quand même cette capacité à cicatriser beaucoup plus vite que nous, quoi, avec beaucoup moins de soins.
Là, on voit que c'est dû à un filet de pêche qu'il a été envoyé ici, parce qu'on voit qu'il y a une cicatrice autour de son cou. Comment la pêche affecte les phoques ?
En fait, le marin pêcheur, il pêche pas de phoque, lui, il pêche du poisson. Donc il faut penser que, évidemment, le phoque, lui, va faire sa prédation sur le poisson. Il peut être pris dans le filet, donc là il risque de mourir évidemment, puisque quand il va pas remonter en surface, il va se noyer. Par contre là c'est un filet, alors ce qu'on appelle des filets dormants, de temps en temps il y a des filets de pêche qui se craquent, qui se perdent. Le filet continue à prendre des poissons lui, le phoque va aller dedans, une fois que la tête va rentrer c'est fini et le filet va rester autour de son cou. Il y a la croissance de l'animal et il va garder ce filet-là. Et tant que l'homme n'intervient pas, le filet, lui, il va rester. Alors, ce filet-là lui a coupé, entre guillemets, heureusement, le haut de sa nuque et sur le côté. Donc, il reste encore un peu de... un peu de lard et puis de colonne vertébrale. Si ça avait coupé dessous, bah dessous c'est l'œsophage et la trachée. Ça lui aurait tout simplement sectionné la trachée. Donc dans son malheur, il a été récupéré très rapidement donc par les gens du parc naturel marin et accompagné évidemment de la EPA de Calais, puisqu'ils sont habilités à manipuler des espèces. Donc là, j'insiste souvent sur ça, mais si vous trouvez un animal échoué, vivant, on n'y touche pas. D'abord, ça peut être vecteur de maladie. Deux, ça peut mordre. Et puis trois, il faut être habilité à ce genre de choses.
L'interaction avec les pêcheurs n'est pas la seule raison pour laquelle les phoques arrivent à la Ligue de protection des animaux de Calais. En cas de maladie, ils sont aussi pris en charge.
Donc là, c'est un mâle veau marin. Donc lui qui n'a toujours pas une bague de chez nous. Et c'est un veau marin qui a été soigné en Hollande. Donc voilà.
Et comment il est arrivé ici, lui ?
Alors, il s'est échoué. Alors, il a été parasité. Hein, il avait énormément de vers pulmonaires, mais bon, rien de très, très dramatique. Seulement, bah, il s'est posé avec la marée haute et puis il a laissé la marée repartir. Et donc, voilà, après, bon, quand ils ont des parasites pulmonaires, souvent, en fait, en toussant, ils ont quand même du sang qui s'accumule au niveau de la commissure des lèvres. Donc on l'a récupéré comme ça, parce qu'il y avait pas mal de gens sur place qui nous ont appelés pour un phoque blessé. Donc en fait, il n'était pas blessé, mais après, il avait vraiment une grosse infestation de vers pulmonaires.
Des phoques qui sont abandonnés et qui sont livrés eux-mêmes et qui n'arrivent pas à se nourrir, oui, ils s'échouent. Et c'est à peu près le fond de commerce ici l'été, c'est qu'on recueille des animaux de la baie de Somme. Qui au départ n'avait pas forcément besoin d'une intervention humaine puisque la mère elle se serait occupée de son jeune, mais comme il y avait des gens que la mère a vu ça, elle abandonne son jeune. Hein. Il y a pas voilà, c'est pas de l'anthropomorphisme, mais c'est je m'occupe plus de mon petit.
La réintégration des phoques à la nature signe la fin de tout ce parcours pour Gaspard et les siens.
Ça, c'est le bassin de réhabilitation finale. C'est la dernière phase. Une fois qu'ils ont fini leur traitement antibiotique, ils mangent tout seuls, que tout va bien. Pouf, ils sont mis ici en extérieur. L'idéal, c'est qu'ils soient plusieurs, notamment chez les petits, parce que quand ils sont plusieurs bébés, dans le même bassin, on les nourrit aux poissons et il y a une espèce de challenge qui se crée, il y a un instinct de compétition, c'est à celui qui va attraper le poisson le plus vite et du coup ça leur apprend aussi des techniques de chasse en fait qui leur seront bien utiles par la suite quand ils retrouveront la vie sauvage.
Par les perturbations, le tourisme, la pêche, les humains ont une part de responsabilité et peuvent interférer dans l'épanouissement de cette espèce. Selon les bénévoles du CMNF et de la LPA, grâce à l'adoption de bons gestes et d'une sensibilisation, la cohabitation reste possible.
Il faut apprendre à se respecter et il faut apprendre à partager des ressources. Et le fait qu'il y ait moins de poissons, pas forcément aller chercher que c'est la faute des phoques. Des phoques, ça coïncide. Au retour d'un nombre de mammifères marins plus conséquents, je continue et je martèle que c'est plus notre comportement et les aménagements qu'on a et peut-être des choses qu'on a fait par le passé, qu'on paye très cher maintenant. Il est peut-être grand temps de modifier nos comportements et modifier notre vision qu'on a de la nature.
Si au détour d'une divagation sur les plages du Nord, vous observez un mammifère marin échoué, vivant ou mort, le premier réflexe est d'appeler l'Observatoire Pélagis ou la Ligue de protection des animaux de Calais. En se coordonnant, ils ont relâché à la mer une soixantaine de phoques en 2022. Rappelons que le phoque est une espèce sauvage protégée avec laquelle l'homme n'est pas censé interagir. Dans un monde idéal, l'intervention humaine pour les sauver ne devrait même pas être nécessaire. Une vingtaine de mètres de distance avec cet animal et une bonne sensibilisation à la nature qui nous entoure sont des premiers réflexes à acquérir qui peuvent améliorer leur épanouissement et favoriser leur retour sur nos côtes. Quelques jours après l'enregistrement de ce podcast, Gaspard est, quant à lui, retourné auprès des siens.
Merci d'avoir écouté cet épisode sur les structures de sauvetage et de préservation du phoque dans le Nord-Pas-de-Calais. Un épisode réalisé par Sarah Kelifi, Maud Fontaineux, avec l'aide de Quentin Saison. Dans le prochain épisode de On perd le Nord, nous vous parlerons de notre rapport aux forêts.